BFM Business, BFM Crypto, le club.
Comme chaque jour, aux alentours de 16h35, le club BFM Crypto, nos experts viennent de nous rejoindre pour mesurer le potentiel de ces cryptos, parler de leur actualité et de la régulation à venir et qui se dessine. Enfin, un peu. Valentin Demey vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour Faustine.
Pour Cryptost, ah ça y est, il a tout dit. Faustine est là aussi, Faustine Fleuret en effet. Bonjour Faustine.
Bonjour Guillaume, bonjour Valentin.
Et bienvenue, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Et puis nos deux traders stars du mardi, Vincent Gann et Xavier Fenot. Salut messieurs.
Bonjour Guillaume.
Vincent Gann, analyste technique indépendant, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Xavier, quel potentiel désormais? Alors on voit aujourd'hui les marchés actions qui trinquent à nouveau, l'euro sur un plus bas de 20 ans face au dollar. On va continuer d'en parler bien sûr tout au long de cette fin d'après-midi. Du côté des cryptos, on va regarder si ça recule autant que les marchés actions là aujourd'hui. Ben non, le Bitcoin toujours autour des 19 500 dollars. Xavier, cette fois le Bitcoin ne sous-performe pas par rapport aux marchés actions. Enfin, comment est-ce que vous voyez cette évolution de la corrélation entre Bitcoin et marché traditionnel?
Ben c'est ça en fait, on était mieux finalement sans les marchés américains hier, il faudrait qu'ils soient fermés un peu plus souvent puisque hier on avait un Bitcoin qui était à plus 5%, l'Ether à plus 7% et puis on retrace effectivement pas l'intégralité finalement de ce qu'on a gagné hier mais quand même pas loin. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, le marché des cryptos suit toujours la nervosité des marchés traditionnels avec ces fameux va-et-vient et surtout en fait les rebonds ne se concrétisent pas. On avait parlé vendredi ensemble, Guillaume, de ces points de repère qu'on avait notamment, par exemple, sur le Bitcoin, ces moyennes mobiles à 20 jours, qui matérialisent justement cette tendance baissière à court terme où il faut, dans un premier temps, déjà passer ce cap-là pour au moins laisser respirer le marché au moins déjà quelques jours, voire quelques semaines. Et on a échoué justement pile poil sur cette fameuse moyenne mobile à 20 jours, notamment sur le Bitcoin, les 20 500 $. Aujourd'hui, en fait, chaque rebond technique, on le voit, on est plus a priori dans des mouvements de rachat de short, de rachat de position vendeuse, que dans l'entrée de nouveaux flux, on a une absence de conviction, ou alors cette conviction, elle ne dure que quelques heures. Alors, il y a quand même quelques cryptos qui tentent de sortir seuls de cette situation. On voit que la dominance du Bitcoin, le poids qu'il a dans le marché, se réduit encore un petit peu plus. On est à 43% de dominance, on était à 48% il y a un mois. Donc je le disais, le Bitcoin lui a échoué sous sa moyenne mobile à 20 jours. Il y a certaines cryptos qui essayent de proposer des dynamiques un petit peu plus construites, comme par exemple Atom, qui est dans le top 30 des plus grosses cryptos en termes de valorisation, qui est 20% au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 20 jours, ce point de repère à court terme, qui a pris 30% en quelques jours, qui est 50%, qui a pris 50% depuis ses plus bas de mi-juin, et qui elle travaille à un niveau de moyen terme qui est la moyenne mobile à 50 jours. Donc mais aujourd'hui, ces cryptos-là, en fait, n'y arriveront pas seuls pour le moment à sortir de cette impasse technique. Pour le moment, on n'a pas de mouvement global d'apaisement, que ça soit d'ailleurs sur le marché traditionnel, mais aussi sur le marché des cryptos. Donc, d'un côté, je vous le disais vendredi, on recommence. Pas de dégradation de la situation technique. Donc, pour le moment, ça va, ça s'est pas encore dégradé. Faudra pas passer sous les derniers plus bas qu'on a réalisés ces derniers jours. Et d'un autre côté, toujours ces fameux points de repère, 20 500 $ sur le Bitcoin, 1 150 $ sur l'Ether. Passer ce cap, les tenir, et après on pourra passer à autre chose, mais pour le moment c'est pas le cas.
Bon, Vincent, j'ai en effet pris mes désirs pour des réalités. La corrélation est toujours là entre crypto et marché actions, et on a une nette baisse aujourd'hui des cryptos. En effet, Bitcoin qui, après avoir repris un peu d'air hier, redescend 19 500 $. Pareil sur l'Ether. Quel potentiel pour la suite d'après vous, Vincent?
Oui, alors cher Guillaume, je confirme tout ce que vient de dire Xavier, c'est parfait. Je me permettrai d'ajouter simplement, alors vous l'avez mentionné avant de vous donner la parole, le facteur technique dominant du jour, c'est pas sur le marché crypto, ce sont les nouveaux records pluriannuels du dollar américain face à un panier de devises. Alors on parle beaucoup de l'euro-dollar, mais prenons le dollar face à un panier de monnaie majeure, il est sur ses niveaux de l'année 2002, donc effectivement ça fait 20 ans. Alors, on a 12 ans d'historique de cours des cryptos. Historiquement, on connaît la corrélation inverse. Chaque phase de poussée haussière du dollar américain face à un panier de devises, c'est un phénomène de pression pour le cours du Bitcoin. Moi, c'est la première chose qui me surprend aujourd'hui. Nouveau plus haut dépassement de résistance du dollar américain, cassure de support sur l'euro-dollar. Eh bien, le cours du Bitcoin, lui, tient son support à 19 000 $. Donc, voilà. Est-ce qu'il a eu sa dose de baisse? En même temps, 60% de baisse depuis le début de l'année, 75% de baisse depuis les records historiques. Il a peut-être effectivement eu sa part de baisse. Alors on tient mieux que le marché action. Il y a un phénomène aujourd'hui de flight to quality, de déplacement des capitaux vers les actifs jugés à l'aspect refuge et un rebond du marché de la dette, du marché du crédit. Est-ce que le marché crypto essaie de jouer un rôle d'entre-deux? À voir. En tout cas, ce qui est certain, pour terminer sur le plan technique, il y a un support à ne pas rompre. C'est le niveau des 19 000 $. Tant qu'il tient sur la base d'une clôture journalière, peut espérer encore avoir cette phase de stabilisation. Par contre, ne mettons pas des œillères, s'il cède, c'est minimum 15 000 dollars et ça se fera très rapidement.
Voilà, tout est dit, Vincent ? On est bon ?
Oui, j'ai fini, merci.
Merci à tous les deux. Alors, Vincent Gann nous accompagne, analyste technique indépendant, et Xavier Fenot pour Interactive Trading. Ce potentiel à suivre des cryptos qui dépendra aussi de l'évolution de la réglementation. On en parlera dans un instant. Faustine Fleuret pour l'Adam est avec nous aujourd'hui. Puis l'autre fait marquant du jour, majeur du jour, c'est en effet cette hausse du dollar face à tout un panier de devises. On en reparlera tout à l'heure, notamment à partir de 17h dans le club jusqu'à la clôture des marchés. Valentin, le vent de l'histoire, ce sont aussi les rafales du quotidien et l'actu du jour. On va parler de Novi. Alors Novi, c'est quoi ? Novi, c'est le porte-monnaie numérique de Meta, la maison mère de Facebook. Et bien après 10 mois d'expérimentation, Novi va déjà disparaître.
Oui, effectivement, les projets de Facebook, Meta ferment petit à petit, en tout cas ceux qui concernent la crypto-monnaie, c'est toute la difficulté que connaît ce groupe. Et c'est ce qui avait justement impulsé, on en discutera avec Faustine peut-être dans quelques minutes, cette régulation accélérée des différentes parties du monde quand Facebook, Meta avait annoncé vouloir arriver dans la crypto-monnaie. Ce portefeuille, effectivement, il n'était accessible qu'aux États-Unis en grande partie, et au Guatemala, si je ne dis pas de bêtises, et très peu de personnes pouvaient y accéder. Donc ce n'est pas un très gros retour en arrière.
Le monde s'en remettra.
Le monde s'en remettra, effectivement. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres wallets qui se mettent en place et qui fonctionnent très bien et qui sont non custodiales, donc effectivement qui permettent de ne pas gérer pour le tiers, pour des personnes tierces, les clés privées ou ce genre de choses. Donc les wallets vont très bien s'en porter, le monde aussi. Par contre, effectivement, c'est le projet Diem, cette fameuse crypto-monnaie de Facebook qui recule de plus en plus sous le poids de la régulation et des pressions des banques centrales notamment. Ça ne veut pas dire que Facebook, Meta, arrête d'aller vers le fameux Web3, tout cet Internet décentralisé dont on entend beaucoup parler, incarné par les NFT, les métaverses, parce que justement, ils se lancent de plus en plus dans le métaverse et ils vont travailler sur un autre portefeuille qui devrait permettre de gérer notre identité numérique justement et tout un tas de crypto-monnaies dans ce métaverse. Donc c'est vraiment s'orienter vers ce monde virtuel et plus essayer d'être le pont entre les utilisateurs et un tiers de paiement. En tout cas, c'est la direction qu'a l'air de prendre le groupe pour ne plus être embêté par les régulateurs.
C'est un peu reculer pour mieux sauter, c'est l'idée.
Ça serait l'idée, effectivement.
Pour Meta. Et pendant ce temps, on va parler de l'un des principaux stablecoins dollars du marché, le stablecoin de Circle. Il y a des craintes, des doutes et des incertitudes là, d'un seul coup sur ce stablecoin. En cette période de marché crypto baissier, même ce stablecoin fait l'objet de rumeurs. Jérémy Allaire, le PDG de Circle, répond à ces rumeurs et met les choses au point, Valentin.
C'est assez courant depuis que les stablecoins existent, qu'on a des vagues de doutes et de FUD, donc d'incertitudes et de peut-être mauvaises nouvelles aussi, ou fake news.
Quoi, des FUD ?
De FUD, oui, effectivement, c'est l'incertitude et des nouvelles un peu mal interprétées, donc FUD, on dit. Mais effectivement, là, sur le cas de Circle USDC, il avait été assez épargné juste là. Jusque-là, c'était l'USDT de Tether qui prenait toutes les balles et l'USDC était assez en retrait et a toujours réussi à garder cet aspect sécurité et transparence. Mais effectivement, depuis quelques semaines, avec notamment toutes les faillites qui sont en cours dans l'écosystème crypto, ou en tout cas les faillites des plus gros investisseurs, on a Three Arrow Capital effectivement qui va pas très bien, et d'autres plateformes comme Celsius qui pourraient faire du mal à l'écosystème, et d'ailleurs déjà en train de faire du mal à l'écosystème. Donc il y a cette crainte que certaines créances ou autres de l'USDC ne soient pas payer ou ce genre de choses, et que les dettes ne soient pas recouvertes. Ce à quoi le patron de Circle a répondu que ça n'avait rien à voir si jamais ces sociétés ne s'en sortaient pas, puisque le stablecoin USDC est bel et bien sécurisé par un vrai dollar en compte en banque des sociétés de Circle ou un équivalent. Et a donné justement plus de précision, c'est-à-dire qu'on était un peu plus, on était vraiment certain que c'était 1 dollar égale 1 USDC, c'est un peu différent, c'est 80% sont des obligations à court terme, des obligations du bon du trésor américain. 20% uniquement, mais en tout cas 20% c'est du vrai dollar dans les comptes en banque. En tout cas, c'est vraiment du 1 pour 1. Donc si jamais il y a un scénario catastrophe, peut-être comme certains pourraient imaginer, comme l'UST, où on a ce stablecoin algorithmique, qui vraiment, encore une fois, n'a rien à voir. C'est un stablecoin algorithmique. Là, on parle d'un stablecoin régulé, qui est centralisé. Eh bien, s'il y avait quand même, sur le marché secondaire, cette course, et que le PEG, donc le prix du 1 dollar, était perdu, alors n'importe qui pourrait aller voir la société Circle pour récupérer un vrai dollar. par ce mécanisme. Donc c'est la réponse du du responsable et du PDG de Circle qui rassure les foules en disant il n'y a pas de problématique de liquidité. On est audité en permanence par la SEC tous les ans et par des gros organismes indépendants tous les mois. Oui. Et voilà, vous pouvez regarder tous les mois nos différents bons du Trésor et autres assurances qui vous prouvent qu'on est bien un pour un sur l'USDC.
Bon, et quand il y a de la crainte et du doute, vous dites FUD, F-U-D, donc c'est ça, Fair, Doubt and Uncertainty.
Ouais, c'est ça, exactement, oui, incertain.
On pourrait le dire CDI, la française, crainte, doute et incertitude. CDI, quoi, voilà. FUD, FUD, FUD.
Bon, pour essayer, effectivement, la prochaine fois.
Vous évoquiez... Il n'y a pas de honte à parler français, bon sang.
Oui, mais c'est des acronymes qui sont déjà pris par d'autres de choses.
Et oui,
France,
c'est
donc, voilà. Et puis, on essaiera de l'imposer, effectivement.
FUD, c'est plus fun. Vous parliez de Circle, c'est bien Circle d'ailleurs qui lance un stablecoin euro.
Oui.
Ils en sont où du lancement de ce gros stablecoin euro qui fait jaser dans tout l'univers crypto là?
Ouais, il est sorti jeudi dernier, si je dis pas de bêtises, juste à la fin de la de Mika et de cet accord politique. A priori, il est listé sur les plus grosses plateformes. Bitpanda l'a listé ce matin sur son affaire professionnelle. Bitstamp, pardon. Si je ne dis pas de bêtises,
je vais vous corriger.
Je ne voulais pas laisser l'honneur, Guillaume. Mais effectivement, il arrive de plus en plus sur les plateformes FTX aussi. Binance US, on n'a pas encore les volumes, ils ne sont pas communiqués encore par Circle, donc on ne sait pas ce que ça représente, mais toutes les plus grosses entreprises sont certains, ça sera le plus gros stablecoin euro, et ils sont tous prêts à l'accueillir, malgré que ça soit effectivement une entreprise américaine qui émette ce stablecoin euro sur le territoire outre-Atlantique.
Et là, je vois Faustine faire la moue du regret. Oui.
Non, alors le régime des stablecoins dans MiCA dont on va parler, oui, ça fait partie des dispositions les plus strictes, et effectivement, c'est ce que tu disais. Libra, c'était l'éléphant dans la pièce à l'époque des débats, d'où ce qui explique qu'on soit allé sur un régime aussi complexe et aussi difficile.
On va parler en effet de cette régulation à venir des cryptos qui pourrait laisser encore plus de champ libre au stablecoin euro de Circle, hein, pourtant géré donc par des Américains. On va en reparler dans un instant, les effets pervers de cette régulation et aussi les aspects positifs de ce qui est en train de se dessiner, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif, et vous allez nous l'expliquer. Il y a du bon là dans ces accords politiques qui ont été échafaudés la semaine dernière. Si les cryptos étaient un pays, ce serait quoi? Ce serait le Salvador? Ce serait la Centrafrique? Ce serait l'Argentine? Il s'en passe des choses en Argentine. Le ministre de l'économie a démissionné.
Oui.
Et les gens, les Argentins, se ruent depuis sur les stablecoins.
Un nouvel usage qu'on n'avait peut-être pas forcément encore totalement vu. On l'avait beaucoup vu, ces stablecoins, dans la finance décentralisée pour générer des rendements ou se protéger de la volatilité des cours, surtout en ce moment. Mais peut-être un peu moins dans l'objectif de se prémunir d'une inflation d'un pays ou de toute autre problématique. Même si ça s'est vu un petit peu en Ukraine au début de la guerre, où il y avait des limites de retrait et les gens passaient beaucoup par les crypto-monnaies, particulièrement les stablecoins. Mais effectivement... On sait qu'il y a 12% des Argentins qui possèdent des crypto-monnaies.
12.
Wow. Dans le post, effectivement, dans le sondage, ou en tout cas la map faite par Chain Analysis, cette entreprise qui observe un peu les flux de la crypto, de la blockchain et qui en tire les tendances, on est sur le 10e pays avec le plus d'adoption au monde côté argentin. Et effectivement, après cette annonce du ministre de l'économie de quitter
Bruno Le Maire argentin qui a démissionné
eh bien il y a eu 3 à 4 fois plus de demandes dans les plateformes locales de stablecoin dollar pour essayer de fuir ce pesos qui perdait beaucoup beaucoup de valeur. Alors je crois qu'il a eu un pic très bas, il est assez rapidement remonté, mais il a perdu par rapport à juste avant l'annonce. Donc c'était l'interlocuteur favori du FMI pour essayer de trouver les problématiques de remboursement de dettes. Donc forcément ça n'a pas fait du bien au pays, donc il y a eu 7 nouvelles usages, les stablecoins américains, pour se protéger d'une inflation. Ça permet à des gens qui ne sont pas bancarisés d'accéder très rapidement à de la liquidité. Ça permet aussi à des gens qui ont justement des difficultés à accéder avec des plafonds ou autres à leur compte bancaire, ou qui n'ont pas la capacité d'échanger parce que toutes les banques ne proposent pas, ou alors peut-être avec des frais assez exorbitants, d'échanger ces pesos par exemple contre du dollar américain. Et bien là, ça se fait en quelques secondes sur une blockchain avec moins de quelques centimes de frais. Donc ça a été 3 à 4 fois plus demandé côté argentin juste après cette annonce ce week-end.
Et ça, c'est la réponse illustrée par les faits à ceux qui s'interrogent à quoi servent les cryptos. Ben, quand on regarde par exemple les stablecoins, on voit que c'est dans un pays où l'inflation est énorme, où la devise est très volatile, les argentins décident d'investir, alors investir, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas placer leur argent dans les stablecoins dollars, histoire de trouver au moins une forme de stabilité, cette stabilité que leur propre devise ne leur permet pas de trouver.
Voilà, exactement. Et donc 3 à 4 fois plus de volume ce week-end suite à cette annonce. Donc effectivement, nouvel usage, ou en tout cas incarnation de cet usage protège de la volatilité.
Si Bruno Le Maire avait quitté Bercy à l'occasion du remaniement, les Français se seraient-ils rués sur des stablecoins?
Ça, c'est, on pourrait faire effectivement une projection futuriste. Je vous l'écris, je vous la ramène la semaine prochaine,
Guillaume. Pourquoi pas, vous êtes dans le futur, vous.
On essaye en tout cas de le comprendre.
Faustine, on va parler justement de cette frontière entre politique, économie, régulation et avenir des cryptos. On va continuer d'essayer de concilier tout ça. Quel bilan est-ce qu'il faut tirer de la présidence française de l'Union européenne pour les cryptos? La présidence s'est conclue par deux accords politiques la semaine dernière, l'un sur la révision du règlement transfert de fonds, TFR, et l'autre sur MiCA, la régulation des cryptos. Il y a même eu la publication du régime pilote. On va rentrer dans le détail. Sujet crucial et complexe, et finalement une question très simple. Est-ce que le secteur crypto doit sortir soulagé de ce qui a été décidé, des accords politiques qui ont été trouvés la semaine dernière à la fin de la présidence française de l'Union?
Alors en effet, on va dans le bon sens et il faut saluer l'action de la France sur des dispositions qui sont beaucoup plus favorables par rapport à ce que les débats auraient pu prédire, qui était plus compliqué. Alors sur MiCA, les deux principales avancées positives, c'est l'exemption de la finance décentralisée du périmètre, ce qui veut dire qu'on ne va pas soumettre cette finance-là désintermédiée à des règles faites pour justement des opérateurs et des intermédiaires, et l'exemption aussi des NFT. Il y avait une crainte qu'ils soient captés dans MiCA, on en parlait énormément dans l'actualité, les débats réglementaires étaient ouverts, et donc s'est posé la question, qu'est-ce qu'on en fait, alors que les NFT en réalité ne sont pas une classe d'actifs homogène. Donc deux issues extrêmement favorables qui sont saluées par le secteur et où on connaît le rôle assez moteur de la France. En fait, la France, précurseur en matière de réglementation, est encore une fois moteur de la structuration de la crypto en Europe. Il y a eu d'autres sujets qui ont été plutôt positifs, le fait qu'on va avoir plus de facilité pour les acteurs français à transiter vers le régime européen. C'était vraiment une attente du secteur qui est en avance en matière de réglementation.
C'est-à-dire qu'il y aura un statut PSAN européen, c'est ça?
Alors, on est en train de transposer, en fait, ce qu'on a fait en France au niveau plutôt de l'agrément avec MiCA. On est en train de transposer en Europe et on va permettre, grâce à des périodes de tolérance, des clauses de grand-père, si je vais dans la technique, de faciliter cet accès à ces acteurs qui sont plus en avance, plus avancé en matière de réglementation et donc par définition plus structuré, quitte à ce que les superviseurs se focalisent sur des acteurs aujourd'hui qui sont un peu plus loin des standards européens qu'on est en train de construire. Mmh. Il y avait d'autres dispositions qui faisaient un peu peur, comme l'interdiction du prêt sur cryptoactifs ou du staking, la question environnementale qui a été traitée de façon beaucoup plus proportionnée.
À un moment, il a été question peut-être d'interdire ou vouloir limiter drastiquement le proof of work de Bitcoin, par exemple, en raison des ressources énergétiques dont a besoin Bitcoin et le proof of work pour fonctionner. Il n'en est plus question, ça n'apparaît pas dans l'accord politique qui
a
été trouvé?
Pas dans cet accord politique, mais effectivement, il est déjà prévu que la Commission européenne se penche sur un rapport pour évaluer l'impact environnemental des cryptoactifs, donc d'ici deux ans, et éventuellement propose des obligations plus spécifiques à certains protocoles, certains types de consensus. Donc la question n'est pas fermée, mais en tout cas, à court terme, ça va.
Voilà, on a gagné du temps là-dessus, alors.
On a été beaucoup plus proportionné, beaucoup plus juste, avec des obligations qui se veulent adapter à des petits émetteurs et beaucoup plus progressif que ce qui avait été prévu avant.
Donc, pas mal de points positifs dans cet accord politique qui a été trouvé sur les transferts de fonds, la lutte contre le blanchiment et la réglementation des cryptos à travers MiCA, l'exemption de la DeFi de MiCA, l'exemption des NFT de MiCA, le traitement environnemental proportionné. Il n'y aura pas à ce stade d'interdiction du proof of work. Mais quand même, certaines inquiétudes persistent et l'écosystème crypto pouvait espérer certaines choses qu'il n'a pas complètement obtenues.
Effectivement, il y a certaines attentes qui ont été déçues. Alors, on a parlé des stablecoins déjà. C'était un régime extrêmement strict du départ qui s'inspirait du régime en matière de monnaie électronique et sur lequel les débats sont plutôt allés dans le sens de rigidifier et de rendre beaucoup plus strictes les règles qui étaient déjà prévues. Et on a une crainte aujourd'hui majeure sur justement les stablecoins décentralisés qui ont fait l'actualité et sur la possibilité qu'ils puissent bénéficier des exemptions pour la finance décentralisée. Rien n'est moins sûr. En fait, il y a un réel doute au niveau de l'Europe sur l'existence réelle de stablecoins réellement décentralisés. Donc une première crainte sur ce volet-là.
Donc sur les stablecoins, attention, parce que la réglementation telle qu'elle se dessine pourrait favoriser les moins fiables ou les moins sûrs ou les moins stables, donc contre-productifs, et favoriser peut-être aussi des émetteurs de stablecoins qui ne dépendraient pas de l'Europe, même sur des stablecoins euros, et donc une perte de souveraineté.
Ce qui a été prévu, c'est une obligation pour tout émetteur de stablecoin euro d'être en Europe. Donc ça va dans le bon sens, effectivement, pouvoir réguler sous MiCA ces acteurs-là. Le problème, c'est que dans MiCA, on a une brèche qui existe avec la reverse solicitation qui permet à des prestataires, si ce sont des clients européens qui viennent les voir, de ne pas forcément avoir besoin de respecter MiCA ou de s'établir en Europe si eux-mêmes ne démarchent pas activement des clients. Et là, on voit éventuellement une brèche parce qu'on pourrait, sous couvert de faire de la reverse solicitation et ne pas, de façon active, démarcher des clients européens, ne pas se mettre en conformité avec MiCA. Et effectivement, là, les objectifs de réglementation, qui sont notamment la protection de l'utilisateur, la sécurité, ne seraient pas atteints. Ça, pour nous, c'est effectivement la brèche la plus importante qui a été dessinée par MiCA.
Et par exemple, Circle, avec son stablecoin euro, n'a finalement, pour l'instant, à ce stade, pas grand-chose à craindre de ce qui se dessine ?
Alors, s'il décide de ne pas adresser le marché européen activement, il n'aurait pas forcément besoin de s'établir en Europe.
Ouais. Il suffit d'être présent sur une plateforme comme Binance pour que les gens y aillent et ce n'est pas du démarchage actif, quoi, c'est tout.
Donc il y a une réelle interrogation avec les règles qui ont été mises en place sur la concurrence déloyale des acteurs étrangers et sur transfert de fonds, ce qu'on a pu voir, donc la révision du règlement de transfert de fonds TFR, c'est beaucoup de dispositions vraiment très spécifiques et plus strictes à l'égard des transferts de crypto-actifs, puisque je rappelle, c'est une réglementation qui s'adresse à tous les transferts de fonds, alors même que ces transferts de crypto-actifs sont plus traçables et plus transparent, comme on le sait, les marchés de crypto-actifs le sont. Or, là, on aurait des échanges d'informations entre les prestataires sur toutes les transactions. Il n'y aurait pas de seuil, par exemple, comme ça existe sur les fonds traditionnels de 1 000 euros, en dessous desquels on n'a pas besoin de faire ses obligations. On aurait besoin de déclarer en tant que prestataire pour toutes les transactions au-dessus de 1 000 euros, ces transactions au superviseur. Donc, on imagine l'engorgement et la difficulté de superviser tout ça. L'identification obligatoire des détenteurs de portefeuilles privés, le Nosted Wallet, pour les transactions au-dessus de 1 000 euros, avec la difficulté opérationnelle que l'on connaît. Donc, c'est sur TFR où on a le plus de craintes, à la fois opérationnelles dans la mise en application de cette réglementation, mais aussi en termes de compétitivité et surtout de souveraineté, puisque ce sont des échanges d'informations et notamment de données personnelles qui sont relativement cruciaux.
À la limite, l'infaisabilité technique va sauver l'écosystème. Du coup, on trouve que TFR est trop exigeant, voilà, met la barre trop haute, trop de contrôle, mais vu qu'opérationnellement, ça va être compliqué à mettre en place, finalement, cette faille technique résout le problème.
Alors, ces difficultés opérationnelles, elles ont été remontées dans le cadre des trilogues. Donc, les parties au trilogue sont conscientes et comptent plutôt sur le fait que le secteur crée des solutions techniques avec tous les écueils que l'on connaît.
Valentin, ça vous fait sourire.
En fait, effectivement, les régulateurs se posent parfois la même question que nous dans l'écosystème. On parlait de décentralisation tout à l'heure, où on parlait de s'adresser au public. Effectivement, je vérifiais, c'était bien Bitpanda Pro, Guillaume, qui a proposé.
C'est ça.
C'est toujours du mal avec ces noms de plateformes centralisées, effectivement. Mais il y a de grandes inquiétudes, même dans l'écosystème, qui sont reflétées d'une certaine manière sur d'autres problématiques par les régulateurs, de cette centralisation ou décentralisation des stablecoins, des DAO, ces fameuses organisations autonomes décentralisées. Donc en fait, nous, on se pose ces questions dans l'écosystème en se disant, bon, qui vraiment contrôle? On a vu Lilian Aliaga sur ce plateau de Cryptost raconter aussi cette histoire sur une autre blockchain, Solana, que certaines entités pouvaient prendre la main sur les portefeuilles pour les liquider un petit peu. Donc il y a effectivement des choses qui ne sont pas décentralisées. Il y en a qui le sont réellement, il y a des stablecoins qui sont vraiment décentralisés, surcollatéralisés. C'est le fameux DAI de Maker DAO, qui est l'une des plus grosses plateformes de la finance décentralisée, celle-ci. Mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas du tout décentralisées. Il faut être capable de les différencier et de se fier ou pas à ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que le code fait loi, et comme tout est transparent, peut-être que le régulateur peut aller fouiller avec sa petite loupe. Ça ne suffit pas toujours, surtout qu'effectivement, il y en a qui arrivent à faire croire que c'est décentralisé alors que ça ne l'est pas, et ça sera le rôle peut-être de ces marchés baissiers de sortir ces projets qui ne le sont pas vraiment.
Oui, le marché fera peut-être mieux le boulot que la régulation elle-même pour assainir l'écosystème. La République tchèque prend le relais de la présidence française de l'Union là, depuis le 1er juillet, c'est la République tchèque qui a les rênes. Le boulot est fait ou elle va agir et elle aura une utilité aussi pour cet écosystème et l'avenir de la régulation?
Alors, ce qu'on a obtenu la semaine dernière, c'est des accords politiques provisoires. Il reste un process européen pour que ces textes soient adopté, mais il reste surtout des discussions techniques pour l'implémentation justement opérationnelle de ces règles. J'en ai parlé, mais il y a aussi des sujets où les réflexions vont être menées à long terme. Alors, sur le traitement environnemental, sur la DeFi, il n'est pas vraiment question de laisser cet écosystème dérégulé. Pareil sur les NFT éventuellement. Donc il faut que les acteurs se tiennent prêts à être consultés dans cette phase d'approfondissement de la réglementation, mais aussi de se préparer à se mettre en conformité avec tout ce qui arrive, parce que MiCA et TFR, ce ne sont que les esquisses d'un un tableau réglementaire qui va être beaucoup plus large à l'avenir.
Mais les choses vont accélérer. C'est le vote au Parlement européen, ce sera pour l'automne, pour on imagine quand les prochaines étapes et finalement la mise en place de tout ça réelle, effective.
Alors, l'entrée en application de TFR et MiCA, pas avant 2024-2025. D'accord. Et des textes vraiment MiCA et TFR, parce qu'on ne les a pas aujourd'hui, d'ici Noël, ce serait une bonne perspective.
Et d'ici là, le 18 juillet, un grand événement que vous organisez là-dedans.
Effectivement.
Pour en parler, on peut en dire un mot, Faustine.
Pour prendre un peu plus le temps sur ces sujets de réglementation, mais pas que, de géopolitique, DeFi, NFT, la finance à impact, quand on parle des cryptos. Le 18 juillet, à la Maison de la Mutualité, on organise notre Crypto et Finance Forum toute la journée pour aborder de façon approfondie tous les sujets structurels et conjoncturels qui nous intéressent sur les cryptos.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le Club BFM Crypto est rendez-vous donc pour cet événement le 18 juillet. Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement, j'allais dire la démocratisation aussi, et le développement aussi des actifs numériques. Valentin Demey, journaliste pour... Pourquoi vous rigolez encore, Valentin ?
Non, parce qu'en fait, c'est une prononciation, on dit souvent l'ADAN, c'est l'ADAN, donc c'est pour ça que je taquine souvent Faustine, et je fais souvent l'erreur aussi de démocratisation, donc ça fait double...
Bon, on va le dire bien alors, l'ADAN et CryptoAst, donc Valentin Demey, CryptoAst à nos côtés régulièrement. Le Club BFM Crypto, merci à tous les deux de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup.
Bon retour. Dans un instant, la séance du jour sur les marchés, elle est bien compliquée cette séance, et l'euro lui est à un plus bas de 20 ans face au dollar. On va tout vous expliquer, les implications aussi de cette chute de l'euro et de beaucoup de devises aujourd'hui face au billet vert. Ce sera dans moins de 2 minutes. À tout de suite.